Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du Fauteuil. Bienvenue à tous et je suis pile à l'heure cette semaine, je suis fier de moi. Bienvenue à tous, mais donc je suis un peu décalé moi dans le canapé. Bienvenue à tous donc dans cet épisode du Fauteuil spécial Divisional Weekend. La saison continue et on est évidemment très content de la partager avec vous. J'espère que vous vous portez bien en ce dimanche. Il est 20h, tout pile. Voilà, j'étais même un petit peu en avance. Bonjour à Sébastien, à Flo, à Degan, à Thibaut et à tout le monde. Il est 20h. Et oui, parce que la NFL a décidé de bouger l'horaire des matchs cette année. Je ne sais pas pourquoi. Me demandez pas. Je ne sais pas pourquoi. C'était très bien d'avoir les matchs de Divisional Weekend le 19h et 22h30, notamment pour les Français. C'est un peu moins bien, clairement, de les avoir à cet horaire parce que malheureusement, ça risque de priver une partie du public du deuxième match. A priori, si vous bossez demain, on va pas vous reprocher de pas vouloir vous envoyer un match à minuit 40, ce qui veut dire qu'on sera debout jusqu'à 4h du matin facilement, voire un peu plus. Donc, malheureusement, il va falloir faire avec, mais évidemment, tous les replays sont disponibles. Bonjour, ben voilà, je viens de répondre, je découvre le chat et voilà, Degan, je viens de répondre à ta question sans y répondre, puisque je ne sais moi-même pas pourquoi ils ont décalé cette année, mais le calendrier de la NFL évolue. Si on prend dans les grandes un plan très large, ça a beaucoup évolué par exemple hein, depuis que le site existe. Moi je me rappelle qu'il y avait que 6 ou 7 matchs du jeudi quand on a commencé. C'était assez exceptionnel encore les matchs le jeudi. Maintenant, il y en a toutes les semaines sauf en semaine 17 si je dis pas de bêtises, j'ai un doute sur la semaine 16. Et voilà, et donc les horaires des matchs maintenant évoluent un peu même en play-off, on n'arrête pas le progrès. Je suppose que c'est plus pratique pour eux puisque ça les rapproche du prime time et donc ça les met un peu plus tard. Donc voilà, ça doit être, je suppose, l'intérêt pour la NFL de faire ça. En tout cas, bienvenue à tous et on l'a dit, et ben voilà, j'ai oublié d'ouvrir mes notes. Je me disais bien qu'il me manquait quelque chose. Je vais commencer par vous dire en tout cas que le Fauteuil vous est présenté par Unibet comme toutes les semaines et on les remercie d'être avec nous. Bien évidemment, je vous mets le lien dans le chat. Voilà, et il y a le logo Unibet qui est juste à côté de moi. On fera les paris à la fin de l'émission. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee également. Hop là. Ah oui, alors il y a Top Chat, alors je crois que personne ne l'avait fait, mais je crois qu'il y a Thibaut qui vient de tipper 5 euros dans le Top Chat, c'est un truc avec les trucs YouTube. Merci beaucoup à Thibaut qui vient de mettre, alors je crois que c'est des commentaires, encore une fois, je crois pas qu'il y ait grand monde qui l'ait utilisé. Je crois que vous pouvez mettre quelques euros pour que votre commentaire il apparaisse en plus gros, et ça rentre dans les revenus en fait YouTube. Donc merci beaucoup à Thibaut. Et je mets au passage le lien vers le Tipeee. Donc le sommaire du jour, on va revenir un petit peu sur les matchs de mercredi. On va parler des défenseurs de l'année, c'est le thème de la semaine. Alors j'ai pas été chercher très loin pour les thèmes, mais je me disais que c'était une bonne occasion de revenir sur les équipes All-Pro qui sont tombées la semaine dernière. Donc cette semaine, on va parler des défenseurs. La semaine prochaine, pour les finales de conférence, on parlera des joueurs offensifs. Ce qui me permet d'ailleurs de faire une petite aparté. Je vous l'annonce en exclusivité. Tiens, on va mettre ça sur le site très bientôt, mais je suis très content de vous annoncer en exclusivité. En tout cas en avant-première parce qu'on le précisera dans les jours à venir sur le site, mais le dispositif pour le Super Bowl du Fauteuil, parce qu'on en est là à parler donc Divisional Weekend, la semaine prochaine je ferai les finales de conférence et on parlera joueur offensif. Pour le Super Bowl, le Fauteuil je pense, fera encore 2 heures comme on avait fait l'an dernier. Mais la différence, c'est que je ne serai pas tout seul. Il y a Raphaël Masmejean qui est confirmé pour être à mes côtés pour le fauteuil. Donc ça, c'est quand même la première nouvelle sur le dispositif Super Bowl. La deuxième nouvelle pour le dispositif Super Bowl de cette année, c'est que en plus d'avoir le fauteuil de 22h à minuit ou de 22h30 à minuit 30, si on fait les 2 heures avant le match, l'autre nouvelle, c'est que le débrief du Super Bowl, c'est-à-dire le podcast de débrief, sera en ligne grosso modo vers 8h du matin. Voilà, vous aurez le débrief dès 8h du matin, comme on l'a fait pour la draft, c'est-à-dire qu'on enregistrera, nous, le podcast dans la foulée du match, et vous l'aurez en ligne. A priori, encore une fois, ça va dépendre, mais si le match finit vers 5h, on va dire que le temps d'enregistrer, monter, mettre en ligne, ouais, à 8h, vous l'avez. On va partir sur un pronostic optimiste. Merci à Sylvain pour le message top chat aussi. Oui, et après Dodo. Clairement, après, il y a des chances qu'on dorme un peu. Mais voilà, Raphaël est confirmé, et peut-être d'autres invités, mais normalement, on va faire un petit truc sympa. Oui, c'est moi qui paye les pizzas, Gus. J'invite évidemment, puisque c'est quand même la moindre des choses. Donc, je le disais, match du samedi, thème du jour, et vainqueur. Christian McCaffrey, qui est juste à côté de moi, il a trouvé preneur. Christian McCaffrey, il va partir chez Franck Langard, qui a gagné sur Facebook. Il va recevoir un message, d'ailleurs, il faut que je pense à lui envoyer. Donc, en tout cas, qu'il surveille bien ses messages Facebook, et il nous donnera son adresse et tout ce qu'il faut pour lui envoyer ça. Il reste Lamar Jackson et Nick Bosa à gagner sur les 2 semaines à venir. Je pense qu'on va faire Nick Bosa d'abord et on va se garder Lamar Jackson pour le moment où il va recevoir son prix de MVP. Ça fera un peu remonter sa cote parce que l'offrir maintenant, c'est pas tout à fait hype, on va dire. Ah, je vois qu'il y a de la la coiffure comme un vrai quarterback des States. Moi, c'est gentil. Oui, comme ça on voit moins la perte. Donc, je disais, on va commencer par les questions. Allez, on commence toujours par les questions, parce que c'est quand même toujours un petit peu la tradition. Les Titans gagnent le Super Bowl. Ça, c'est une vaste question tout de suite, Florian. On va en parler, en tout cas, dans les matchs. Pauvre type qui nous dit « Bonsoir, Mariota, avec une bague NFL, tu y crois? Ton ami Winston va faire la gueule si ça arrive, clairement. » Oui, alors, à une époque où on se demandait lequel aurait une bague le premier, on se disait ça dans l'idée qu'il serait titulaire. Là, c'est vrai que Mariota, avec une bague, ce serait particulier. Tiens, Stefanski, coach des Browns, qu'est-ce que j'en pense, demande Gus. C'est vrai que c'est tombé juste avant l'émission, je crois une heure, il y a une heure et demie, quelque chose comme ça. C'est tombé donc il y a une heure et demie. Kevin Stefanski, le coordinateur offensif des Vikings, devrait être embauché, c'est encore au conditionnel parce que c'est NFL Media qui l'annonce, c'est pas encore la franchise, devrait être embauché au poste de coach des Cleveland Browns. C'est un candidat qu'ils avaient dans le viseur depuis un moment, puisqu'il avait passé un entretien d'embauche l'an dernier quand ils ont embauché Freddie Kitchens. Il ne l'avait pas eu à ce moment-là. Bon, visiblement, il avait fait suffisamment bonne impression pour qu'il le revoie cette année et que ça lui plaise, que ça leur plaise. Alors, on a taquiné sur Twitter en mettant que, bah, forcément, et je l'ai mis dans l'article aussi, les Vikings gagnent 147 yards à tout casser dans la nuit de samedi à dimanche, et le dimanche, les Browns embauchent ce coordinateur-là. Alors forcément, ça fait pas rêver les foules le lendemain du match. Évidemment, il faut toujours prendre du recul, c'est toujours le plus important. Il a fait du bien quand même à l'attaque des Vikings, j'ai plus les stats en tête. Du coup, mais il y a eu des bons passages. Dalvin Cook a quand même été très productif cette année. Il a trouvé des moyens de le mettre en valeur. Kirk Cousins a eu des bons matchs quand même. Donc voilà, c'est pas totalement négatif. Mais après, moi, j'aime pas juger les embauches de coach à partir du moment où qui savait que John Harbaugh, quand il était coach des équipes spéciales, était une bonne embauche. C'était pas forcément gagné non plus. Donc je peux pas juger là, dire Kevin Stefanski, ça va marcher, ça va pas marcher. J'ai pas une boule de cristal. Donc c'est plus dans l'esprit managérial. Je connais pas Kevin Stefanski suffisamment pour savoir en termes de management des joueurs, de gestion des joueurs, voilà, plutôt en français. Est-ce que Kevin Stefanski peut tenir ce groupe? Moi, c'est l'enjeu principal pour les Browns. C'est pas tant le talent, c'est de les tenir. Alors évidemment, il faudrait qu'il y ait du mieux en attaque et sur l'utilisation des joueurs, parce que il a bien utilisé Dalvin Cook ça tombe bien, il a, comment il s'appelle, Nick Chubb, qui sera à disposition. Il a un quarterback qui a montré des belles choses dans sa saison rookie, qui a eu un peu de mal dans sa deuxième saison. Bon, voilà, il y a des choses. J'en profite, je dis merci à Sixers Forever 3 pour le don top chat. Merci à vous. On aura des annonces aussi là-dessus, d'ailleurs, tiens, à propos du Tipeee et tout ça d'ici la fin de l'année. Donc je disais, Kevin Stefanski, voilà, il va falloir qu'il tienne le groupe et qu'il trouve des solutions offensives, s'il arrive à faire ça. Et Gus a une très bonne remarque, Mike McCarthy aurait été plus légitime pour les Browns avec une bague et un côté militaire. Je pensais aussi plus à Mike McCarthy. Je pensais un peu plus à Mike McCarthy. Après, le côté militaire, je suis pas persuadé. Il avait quand même été pas mal remis en cause sur la fin de son bail à Green Bay. Rappelons-nous qu'il y avait quand même des histoires qu'il n'assistait pas à toutes les réunions parce qu'il se faisait masser dans son bureau, quoi. Donc, bon, à voir. Mais j'aurais été plus, en effet, sur quelqu'un de carré. Pas tant carré, mais qui puisse inspirer le respect à ces jeunes joueurs-là. C'est-à-dire qu'en effet, qu'il y ait au moins une bague, ou qu'il y ait... Alors, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, donc... mais qu'il y ait au moins des années de coaching, quoi. Donc, c'était un peu le péché originel de l'embauche, de Freddy Kitchens. C'était un peu le côté jeunesse et côté copain-copain avec le quarterback. Donc, ça, c'était un peu problématique. C'était pas le même massage que Robert Kraft Degen. En le disant, je me suis dit, ça porte peut-être à confusion. Non, a priori, il faisait venir une masseuse ou un masseur, d'ailleurs, je sais même plus, mais il faisait venir quelqu'un et en gros, il se faisait masser tranquillou dans son bureau pendant qu'il y avait des réunions. D'ailleurs, en effet, alors oui, la modération YouTube est un peu carrée, donc il y a quelqu'un qui a mis « je suis sur le cul » en commentaire, il a fallu que je le modère, ne vous inquiétez pas. Donc, il vient d'où Stefanski, Jean-Baptiste? Oui, pour resituer Stefanski, il est dans le staff des Vikings depuis 2006. Il a été assistant au head coach, assistant au coach des quarterbacks, j'espère que je ne vais pas me tromper dans l'ordre. Ensuite, il a été coach des running backs, coach des tight ends, coach des quarterbacks, coordinateur offensif intérimaire en 2018 et coordinateur offensif en 2019. Donc voilà, il connaît tous les postes d'une attaque. Clairement, c'est un coach offensif. Il va falloir s'entourer pour la défense. Pourquoi McDaniels n'arrive pas à trouver de travail? Question de Léa. Oui, alors, la première, et je reviens sur le commentaire après. Pourquoi McDaniels n'arrive pas à trouver? Des fois, c'est un peu un concours de circonstances. Hein. Il y a aussi plus de candidats que de postes disponibles. Il y a certains coachs qui ont été embauchés rapidement. Je pense à Ron Rivera, notamment aux Redskins, parce qu'ils étaient déjà libres, donc ça peut aller très très vite. Quand vous êtes coach d'une équipe qui est encore qualifiée en playoff, parfois ça peut aussi compliquer les choses. Ça arrive qu'on attende, si vous vous rappelez, donc il y a 3 ans, si je ne dis pas de 3 ou 4 ans, 3 ans, les 49ers avaient attendu la toute fin des playoffs pour que Kyle Shanahan soit disponible. Mais ce n'est pas toujours le cas, il y a des équipes qui préfèrent aller plus vite, donc ça ferme certains postes, et puis après il en reste moins. Bon, après, est-ce que Josh McDaniels a souffert aussi de sa réputation dans la ligue? Enfin, est-ce que sa réputation a souffert, je veux dire, parce qu'il a quand même mis un vent assez mémorable aux Colts il y a 2 ans? Voilà, bon, son expérience à Denver c'était mal passé il y a quelques années, mais ça je pense que c'est plus du passé. Donc voilà, et après, est-ce que le côté un peu poussif de l'attaque des Patriots cette année a joué contre lui? Enfin, il peut y avoir plein de choses. Donc oui, il y avait Tarz Velder qui disait que je juge toujours quand Jeff Fisher a embauché, ça c'est vrai. Petite remarque d'ailleurs, dans la rédaction, en discutant avec d'autres aujourd'hui, je disais que par contre, si les Titans gagnent le Super Bowl, on n'est pas prêt à entendre Jeff Fisher. Je pense qu'il va le faire. Dans une petite interview, il lâchera probablement un truc du genre « j'ai construit les bases de cette équipe, j'y suis pour quelque chose ». Comment arrêter Derrick Henry? J'ai pas de solution, mais on va en parler aussi. Quand une équipe semble être en bout de course comme les Patriots, quelle est la meilleure option à reconstruire avec des joueurs affirmés via trade et free agency, avec ou reconstruire via la draft? C'est une question de Titouan. On a un peu évoqué le sujet la semaine dernière. Clairement, c'est un mix des deux. C'est-à-dire que moi, quand je dis que je suis partisan des échanges. Que je suis partisan des échanges pour des joueurs confirmés plutôt que des choix de draft, c'est dans un but de compléter un effectif. C'est-à-dire que quand vous êtes proche et que vous avez les pièces de base, oui, il faut être agressif. Je pense qu'il faut être agressif sur les échanges, lâcher un premier tour s'il faut pour récupérer un très bon joueur, etc. Oui, mais Évidemment qu'il faut poser. Alors, des fois, il y a des opportunités pour récupérer un gros joueur dans un échange. Mais évidemment qu'il faut les deux. Il faut poser aussi des bases sur la draft. C'est-à-dire qu'à un moment, on me disait, oui, mais tu cites tout le temps comment dire, les échanges, etc. Mais il faut les deux. Je pense que l'exemple, en tout cas, qui me vient en tête, est le plus, pas parfait, parce qu'ils n'ont pas gagné le titre, mais le plus criant de ça, c'est les Rams. C'est-à-dire que tu draftes Aaron Donald, Jared Goff, Todd Gurley, quelques gros cadres comme ça, et puis derrière, une fois que tu sais que tu peux aller loin avec ces mecs-là, bah tu lâches des choix pour récupérer un Jalen Ramsey. Ils avaient tenté Marcus Peters, un Brandin Cooks, voilà. Là, et, voilà. Mais il y a un mix des deux à avoir, il y a un équilibre à avoir, et qui est évidemment très très compliqué à trouver, parce que bah, c'est tout l'enjeu, hein. C'est tout l'enjeu de ça. S'il y avait de toute façon un Si, s'il y avait de toute façon une recette miracle, toutes les équipes l'appliqueraient. Il faut un peu de chance, il faut un peu de chance à la draft, il faut un peu de chance à la free agency. Enfin voilà. Le brûleur de loup qui demande pourquoi Bill O'Brien trouve-t-il toujours un poste? Bill O'Brien, il est toujours en poste et il sauve sa tête toutes les semaines en gagnant. Alors c'est un peu bizarre. Je vois. Alors oui, c'est ça. Donc il s'appelle le brûleur de loup. Le brûleur de loup, c'est une équipe de hockey, non? Mais je sais plus où. C'est en Savoie, non? Voilà, je suis curieux. Le doc sur Hernandez sort ce mercredi sur Netflix. Oui, ça va être très intéressant à voir. Comment dire, je vous conseille d'ailleurs, si vous êtes intéressé par cette affaire, il y a un podcast qui était sorti, je crois que c'est du Boston Globe, je ne sais plus, mais il y a un très très bon podcast, si vous êtes anglophone, qui est sorti il y a déjà quelques mois, presque même un an. Il a mis Grenoble en Savoie. Ah, c'est Grenoble. Alors, pardon, c'est pas en Savoie. Oui, excusez-moi. Je suis pas encore hyper calé en hockey. Donc Grenoble. Ok, les brûleurs de loup de Grenoble. J'ai mal à mon Dauphiné. Désolé, désolé, désolé. Et après, Jean-Baptiste a raison. Les Dragons de Rouen sont beaucoup plus titrés. C'est vrai. C'est vrai que, ouais, c'est vrai. C'est vrai que Rouen, ils ont le baseball aussi qui marche bien. Il y a plein de villes comme ça. Hein. Et c'est Sénart aussi qui marche bien au baseball, si je dis pas de bêtises. Parce que je viens du 77 quand même, donc il faut que je sache. C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on pourra assister au test de la CFL, dit Degan? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut que je redemande. Je vais me renseigner là-dessus et on en reparlera. Bonsoir à tous, une très belle année, dit Willy. Bonjour à Willy. Ça y est, j'ai lancé un match Rouen-Grenoble, visiblement, dans les commentaires. Oh, tout de suite, les sports mineurs. Oui, bon. Les Templiers de Sénart, voilà, le nom m'échappait. Les brûleurs de loup, c'est pas vegan pour Alain, dit Mathieu. Donc, on va parler un petit peu des matchs de samedi quand même. Hein. On a tous vécu une nuit courte, parlons-en. Ravens Titans, on va commencer par le deuxième match. Évidemment, c'est comme la semaine dernière. Je sais que vous voulez commencer par la conférence AFC. Donc, Ravens 12, pardon. Putain, Titans 28. Vous voyez, j'inverse déjà. Domination physique totale de Tennessee. Tout commence par les lignes, évidemment. Derrick Henry, 195 yards en 30 courses. Sanning fait un boulot énorme. Parce qu'en fait, alors, en face, c'est Baltimore, mais c'est pas Baltimore. C'est-à-dire, il y a quand même deux choses là-dedans. Les stats sont un peu en trompe-l'œil. C'est-à-dire que Baltimore, c'est la cinquième défense au sol, si vous regardez les stats de yards par match encaissés au sol. Mais en vrai, la statistique que moi je privilégie pour analyser une défense au sol, c'est plutôt le nombre de yards autorisés par course, pas par match. Parce que si vous êtes devant de très loin, ce qui a été le cas des Ravens très souvent, l'équipe d'en face, elle va pas courir. Donc les yards par course, par contre, les Ravens prenaient 4,4 yards par course, ils étaient 21e, donc c'était quand même une défense prenable à ce niveau-là. Ça s'est révélé plus que prenable. Derrick Henry leur a marché dessus. Et encore une fois, énorme, énorme, énorme boulot de Derrick Henry, énorme respect pour Derrick Henry. Mais il faut vraiment pas oublier sa ligne qui a fait un boulot d'ouverture de brèche assez monstrueux. Donc franchement, ça c'est le fait du match. Après, Tennessee domine aussi sur la ligne défensive. Et John Harbaugh l'a dit, hein, on s'est fait dominer dans les tranchées. 4 sacks sur Lamar Jackson, ils l'ont bien contenu en début de match contre la course. Ils ont eu des stops très importants sur quatrième tentative et sur des tentatives très courtes. Donc franchement, c'est un match complet, dominé, sans bavure des Titans. Est-ce qu'on s'attendait à ça? Non. Franchement, alors oui, il y avait une bonne dynamique pour Tennessee. Ils allaient donner du mal, ça allait être un match physique. Je pense que ça a été dit. C'était pas moi qui gérais la preview jeudi dernier, mais je pense qu'ils l'ont bien dit. Il y avait du physique, il y allait avoir du répondant. Voilà. Après, moi, je veux bien. Hein, tout le monde peut faire le cake. Ouais, je l'avais dit, etc. C'est toujours plus facile à dire le lendemain. Donc voilà, c'est pas. C'est pas si facile que ça. Lamar Jackson, donc le gaillard qui va probablement être MVP, il fait. Alors moi, ce qui m'a plus marqué que les stats, c'est la prestation. On rentre dans la psychologie de comptoir, mais un peu le langage corporel. C'est-à-dire qu'il avait l'air quand même très tendu, agacé, et ça s'est vraiment vu pile poil sur l'enchaînement. Entre le touchdown incroyable avec la passe de Derrick Henry pour Corey Davis, si je dis pas de bêtises, où c'est quand même un moment assez incroyable. Parce que ça aussi, il faut le dire, les Titans, on s'est beaucoup moqué d'eux, on a toujours dit que c'était une des équipes les moins hype, les moins fun, les moins swag, les moins ce que vous voulez de la NFL. Là, ils ont quand même donné du fun avec cette passe de Derrick Henry. Bon, la petite passe sautée d'ailleurs, ça fait un peu peur. Mais voilà, c'était très fun. Et après cette passe-là, on voit sur le banc Lamar Jackson qui est agacé. Et donc on voit pas le calme, on le voit agacé, comme si c'était une erreur de son attaque ou si c'était lui. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et derrière, sur le fumble, il est au milieu des défenseurs et ça se voit. Moi, sur le coup, je pense qu'il va se faire arracher le ballon sur le premier mouvement et il avance un petit peu dans la poche. Et il s'en sort, et sur le deuxième mouvement, Jurie Kazel lui prend le bras. Et c'est logique parce qu'il a l'air vraiment là d'être presque trop engagé, presque trop enragé et de vouloir en faire trop en fait. Et ça s'est beaucoup vu sur la fin de match, sur les courses. On sent vraiment qu'il veut prendre le truc en main et peut-être qu'il y a de la jeunesse là-dedans. Peut-être qu'il y a. Il est jeune, hein, il a quoi, 22 piges ou quelque chose comme ça. Mais on sent qu'il y a le talent et qu'il veut y aller. Mais c'est trop nerveux, c'est trop nerveux. Le fumble est vilain, les interceptions, la première est pas du tout pour lui, mais la deuxième un peu plus. Donc voilà, il y a des limitations, mais faut pas tout jeter. Il y a très peu de quarterbacks qui s'appellent Lamar Jackson ou Tom Brady ou n'importe qui d'autre qui gagnent en devant lancer 59 fois le ballon et en n'ayant pas de jeu au sol à côté d'eux. Il a fait quelques belles courses, mais voilà. Je reprends vos commentaires pour faire les miens, comme c'est plus simple. Degan dit il a fait quelques belles courses et Coro Coppels dit il a forcé. Je suis assez d'accord avec les deux. Donc voilà, c'est vraiment. Encore une fois, faut pas tout jeter. Je sais qu'on est beaucoup dans la surréaction maintenant et que c'est beaucoup dans l'instantanéité. Tout n'est pas acheté, ça arrive. Je veux dire que Peyton Manning a perdu beaucoup de matchs de playoff avant d'aller au bout. Tout le monde n'est pas Tom Brady. Tom Brady nous a habitués à l'exceptionnel, mais il y a beaucoup, beaucoup de quarterbacks qui ont eu du mal en playoff pendant longtemps avant de gagner. Dan Marino a jamais gagné le Super Bowl. John Elway a mis énormément de temps à gagner le Super Bowl. Lamar Jackson est jeune. Ce match-là est beaucoup moins catastrophique que celui de l'an dernier contre les Chargers, par exemple, où il n'est pas capable de faire une passe. Donc, encore une fois, je veux pas tout jeter. Il y a eu de la frustration. On le voit d'ailleurs dès l'interception, dès la première interception avec le plaquage par le col sur le défenseur d'ailleurs. Donc voilà, faut pas tout remettre en cause. Faut pas dire oh là là, c'est une baudruche, on a tout monté ça. Ses performances en saison régulière, elles ont été réelles. Il a été excellent. Et encore une fois, l'étiquette de quarterback de saison régulière, on l'a collé un temps à Peyton Manning aussi, hein. Donc voilà, je dis pas encore une fois qu'il va devenir Peyton Manning, pas du tout. Mais dans un sens ou dans l'autre, je pense qu'il faut pas tout jeter, quoi. Il faut avoir un peu de modération. Je vois Gaël qui dit par exemple les futurs Hall of Famer, révolution, etc. Faut arrêter. Oui, parce que mais je l'ai déjà dit ici. Je pense que le terme révolution maintenant il est galvaudé parce que tout le monde l'utilise à toutes les sauces. C'est pas une révolution parce que tout le monde va pas faire la même chose, parce que tout le monde n'est pas Lamar Jackson. Ça existe pas. En fait, il y a pas 10 joueurs, il y en a même pas 5, actuellement, je sais même pas s'il y en a 3, qui peuvent courir aussi vite que Lamar Jackson et lancer le ballon. Donc, c'est pas une révolution, tout le monde va pas faire pareil. On l'a bien dit dans l'émission de mardi dernier d'ailleurs, l'évolution, c'est que tous les quarterbacks doivent être un minimum mobile, mais pas tous mobiles comme Lamar Jackson, ce sera pas le cas, et là-dessus on est d'accord. Mais faut pas jeter tout ça, faut pas. L'année dernière, on était aussi prêt à le jeter après un match catastrophique contre les Chargers. Il a fait d'énormes progrès pendant l'intersaison. Là, il est encore jeune, il va encore faire des progrès pendant l'intersaison. Donc ça, c'est vraiment pas un problème. Marc a raison. Est-ce que la blessure d'Ingram a pas rendu le plan de jeu des Ravens trop prévisible? Il y a ça aussi. Mark Ingram est vital pour cette équipe dans les matchs de saison régulière. Donc son absence a forcément fait très mal. Thibaut, la mobilité reste quand même une nouveauté. Non, pas du tout. Pas du tout. Michael Vick a fait une saison à plus de milliards au sol au début des années 2000, 2006, si je ne dis pas de bêtises, sa saison à milliards avec les Falcons. À l'époque aussi, c'était annoncé la révolution, etc. Mais c'est des joueurs qui sont assez uniques. Donc le moule, il bouge pas si radicalement. Demain, on va pas avoir des Lamar Jackson et des Michael Vick partout. Donc voilà. La mécanique de lancer qui fait peur, Laurent, oui et non. Il y a beaucoup de quarterbacks qui ont des mécaniques atypiques. Il va, encore une fois, un, il va progresser. Et deux, Philip Rivers a une mécanique de lancer immonde et ça fait 20 ans qu'il est là. Encore une fois, moi, on en reparlera aussi un peu dans le débrief. Demain, l'émission sera en ligne en fin d'après-midi, le débrief avec Grégory. On en reparlera un peu, mais moi, je pense que de toute façon, l'axe de progression pour Baltimore, il est simple. Et on l'a déjà dit d'ailleurs dans les points faibles, dans un fauteuil il y a 2 ou 3 semaines sur les points faibles des prétendants. Il faut plus de cibles à Lamar Jackson. Parce que, en face, Ryan Tannehill, il a eu à réussir que 7 passes. Il a lancé pour moins de 100 yards, mais il avait des cibles de qualité. Et Lamar Jackson a Marquise Brown, très bon. Il a aussi Mark Andrews, monte de temps en temps, etc. Mais Tannehill avait quand même beaucoup de choix. Corey Davis et Jay Brown, Jonnu Smith et Raymond qui en capture. Mais il faut beaucoup de cibles pour étirer les défenses. Et clairement, il faut avoir des options et le run, la course à tout va, c'est pas une, on peut pas vivre comme ça. Mais ça, on l'a déjà dit plein de fois et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut avoir un bon quarterback, voire un grand quarterback pour gagner les Super Bowls. C'est qu'on ne gagne pas en ne faisant que courir. Au bout d'un moment, il faut agrémenter avec de la passe, minimum agrémenter, voire plus. Il faut que le quarterback puisse aller chercher des matchs. Donc voilà, il faut étoffer le groupe et encore une fois, ça va prendre du temps. Il est arrivé, ça fait un an et demi qu'il est titulaire. Donc, encore une fois, il faut pas être trop pressé. S'il gagne le Super Bowl dans 3 ans, le gars aura gagné au bout de sa 4e saison, il aura 26 piges, ce sera pas un drame non plus, quoi. Donc, encore une fois, zen. Tannehill, donc deuxième match à moins de 100 yards, incroyable. Encore une fois, cette équipe de... Oui, Delanie Walker n'est pas là. Tarz Velder le dit bien pour les Titans. Il faut des cibles, il faut beaucoup de cibles. Regardez, on va en parler, on va passer au deuxième match. 49ers 27, Vikings 10. Qui là, Jimmy Garoppolo, qui lui aussi fait un match limité, on va dire. Il peut lancer à Emmanuel Sanders, il peut lancer à George Kittle, il peut lancer à Deebo Samuel, il peut lancer à celui qui est sorti du chapeau et dont le nom m'échappe du coup. Donc voilà, il faut des cibles, même si tu les utilises peu, il faut des solutions en playoff. Donc voilà, et là les Vikings, eux, avaient Diggs, Thielen, Rudolph, etc. Donc il faut du monde. Il faut du monde. C'est évidemment pour moi la priorité de l'intersaison pour Baltimore. Donc je le disais, 49ers 27, Vikings 10. Et ben là, celui-là, on a eu un match très très costaud. Ah oui, c'est Bourne, merci que j'ai oublié. Merci beaucoup. Alors, ton jeu de course marque des points. Alors pourquoi tu lancerais, dit Bertrand? Évidemment, tant que ça déroule. Comme les 49ers là, il y a un moment où les 49ers enchaînent 12 courses de suite dans le troisième quart, et c'est magique. C'est parce que ça marche. Bam, 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 et encore, et encore. Et Derrick Henry, à un moment, il fait pareil. Bam, 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 bam. Mais, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Kyle Shanahan qui l'a dit dans une interview il y a pas longtemps. Pour pouvoir courir, il faut que la défense, elle sache que tu peux passer. Parce que si tu sais pas passer, et les défenseurs de... Il y a un défenseur dont l'on m'échappe des Titans qui a donné une interview après le match qui l'a dit. Il a dit on a mis 8-9 mecs dans la boîte pour pas qu'ils puissent courir. On l'a défié en 1 contre 1 avec les cornerbacks et on lui a dit vas-y, débrouille-toi. Donc voilà pourquoi les deux se complètent et pourquoi c'est un jeu complet. C'est bien de courir, d'avoir la meilleure ligne du monde, etc. Mais s'il n'y a aucune menace à la passe, la défense ne respecte pas la passe, elle blinde. Donc au bout d'un moment, c'est aussi ça. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un quarterback et un. Ça passera pas que de courir, seulement courir. Ça passera pas 3 matchs de suite jusqu'au titre. Peut-être que je dis une bêtise, hein, mais a priori, il faut des passes. Parce que, encore une fois, vous allez me dire oui, mais les Titans, il y a des passes décisives de Tannehill dans ce match. Donc il faut savoir passer. Même s'il en fait peu, il y a des passes décisives dans ce match. Et les passes de Tannehill, il n'y en a que 7. Mais elles sont plus décisives que les 50 que lance Lamar Jackson. Donc c'est aussi ça qui est important. Oui, non mais voilà, Elway gagne avec Terrell Davis, Favre avec Dorsey Evans, Dieter Zeller, bien sûr. Mais encore une fois, c'est parce qu'il faut un équilibre. Et si ces mecs-là peuvent courir, c'est parce que les défenses craignent que Favre et Elway les tuent. C'est ça aussi. C'est un complément. Et Terrell Davis et Dorsey Evans n'auraient pas eu autant d'espace s'ils avaient joué avec, je ne sais pas, Joe Trucmuche, Ryan Lindley ou machin, parce que les défenses auraient dit « quarterback, voilà, on va se mettre devant l'autre qui court, là, et puis on va lui régler son compte. » Donc voilà, c'est pour ça que c'est un sport intéressant, c'est parce qu'il faut un équilibre en permanence. C'est vrai que Favre pouvait courir un petit peu. Donc je le disais, les 49ers, démonstration, là encore, on parlait de gagner les tranchées en play-off, ça c'est quand même très très important, et ben on a encore la preuve, les 49ers ont, pareil, la ligne offensive, c'était du velours, moi je les ai trouvés presque encore plus, j'ai trouvé la ligne encore plus impressionnante que celle des Titans, alors je sais pas si c'est parce que je l'ai vu en replay, et que du coup j'avais pas les temps morts, et donc ça c'était un peu plus rythmé, mais honnêtement, c'est waouh, c'est créatif au niveau des appels de jeu au sol, et en même temps la ligne fait un boulot formidable, et Mostert et Coleman derrière en plus sont patients et trouvent les brèches et s'engouffrent avec des éclats des accélérations qui sont hyper atypiques. Pas atypique, hyper explosif, pardon. Donc franchement, c'est pour ça que je disais les 12 courses de suite dans le troisième carton, c'était beau à voir, quoi. Donc voilà, il y a ça, et après, Garoppolo, vous êtes plusieurs à en parler dans les commentaires. Évidemment, alors, il y a une interception qui est vilaine, il n'a pas peur, c'est-à-dire qu'il y a des interceptions, il en frôle une ou deux autres, il y a des lancers qui sont vraiment dangereux, donc il n'a pas peur. Ça, c'est le bon point, mais du coup, ça donne des lancers très dangereux. Il va falloir trouver un petit dosage de... Il ne faut pas jouer en ayant la peur en play-off, mais il va falloir trouver un petit dosage de raison, en tout cas, là-dedans. Ça, ce serait quand même nécessaire. En défense, quelqu'un l'a dit, je ne sais plus qui l'a vu passer, mais quelqu'un disait que Nick Bosa était le MVP du match. Je pense qu'on fera gagner son maillot vendredi. Hein. Nick Bosa, il était partout, 6 plaquages, 2 sacs, 6 sacs pour la défense au total. Ils étaient étouffants, il y avait de la pression partout, ils ne pardonnent pas les erreurs. Les stats, merci beaucoup à Mathieu aussi qui vient de rajouter un don. Vous voyez, il suffisait, en fait, quelqu'un a découvert le truc, même moi, je n'en faisais pas la promo parce que je ne savais pas comment ça marchait. Et ben, vous voyez, merci à Mathieu donc, qui dit top, c'est don sur YouTube, merci. Et merci l'équipe TDA pour le boulot. Donc je disais, ça me déconcentre du coup. Ouais, Coleman, Mostert, Breda, quelle escouade de coureurs, encore une fois. Et alors, il y a Gus qui demande comment on donne sur YouTube, mais alors je vous jure que moi-même, je suis pas sûr de savoir. Est-ce qu'on peut donner des points de retraite? Je sais, et moi, je sais même pas comment ça marche parce que je suis freelance, alors je sais pas, j'ai pas d'horaire, tout ça. Moi, je sais même pas où je cotise. Je crois qu'il y a un petit dollar en dessous du message au-dessous de la zone de commentaires, je crois que ça doit être ça. Ça doit être ça. Il y a Dayan qui dit « Donne-moi ton numéro de carte bleue, je te montrerai. » On ne vous le conseille pas de transmettre, même si on se fait confiance dans la communauté, je suis pas sûr. Bon, il y a ça. Alors après, encore une fois, je ne sais pas trop comment ça marche, mais sinon, vous pouvez y aller par Tipeee, hein, ça marche bien aussi. Hein. Donc je disais, oui, Nick Bosa était partout, les stats sont ahurissantes, 147 yards de total pour les Vikings, 21 yards seulement au sol, 2 sur 12 en troisième tentative, 21 minutes de possession. Minnesota est battu par plus fort, ils sont dominés, ils perdent 2 ballons, il n'y a rien à faire quoi, il n'y a rien à faire. On peut pas vraiment tomber sur Kirk Cousins, alors évidemment ça aurait été bien de dire il prend le match en main quand il n'y a pas de jeu au sol, etc. Mais pour faire simple, je serais dans le foot à 75 ans, il y a des chances, ouais. Je pense qu'il y a des chances. Donc comment dire, je disais que Minnesota, encore une fois, Kirk Cousins, on aurait pu dire il fallait que le quarterback prenne le match en main. Pff, mais c'est compliqué, quoi. Il y a tellement de pression, ça va tellement vite en face. J'ai du mal à reprocher quoi que ce soit à Kirk Cousins.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Défense des Vikings est honnête. Hein. La défense des Vikings est très honnête. Il y a des bons joueurs dans cette défense. Ils ont fait des bonnes actions sur ce match. Mais voilà. Et en plus, c'est cette action d'équipe spéciale avec ce punt relâché qui les tue, quoi. Donc voilà, ça a été vraiment dur. Mais oui, ils ont complètement dominé Cook, comme relève Michael. Donc ça a tué le match. Mais on a deux équipes qui ont gagné au physique cette nuit. Ça a été plutôt sympa. Et puis. Moi, je sais pas, c'est sympa de voir un peu que ça tourne au niveau des équipes. Là, on est parti quand même sur des finales de conférence qui s'annoncent très très atypiques parce que on a donc les 49ers qui sont de retour après quelques années. De l'autre côté, on a donc les Titans qui vont jouer les Chiefs ou les Texans. Donc Chiefs, Texans et Titans, c'est frais. Et de l'autre côté, donc 49ers, Seahawks, Packers. Bon, Seahawks, Packers, c'est plus expérimenté, mais les Packers, ça fait longtemps qu'on les a pas vus en finale de conférence. Et là, vous allez voir qu'on va avoir un truc genre ultra frais, mais qu'à la fin, ça va être Aaron Rodgers qui gagne, quoi. Ou les Seahawks de Pete Carroll, et on va dire, ah bah non, en fait, c'est des mecs qui ont déjà gagné les années 2010. Est-ce que je change mes pronos pour ce soir, Flo 07? Je ne pense pas. De mémoire, j'ai mis Packers et Chiefs. Ouais, non, je change pas ça. j'aimerais bien, après, sinon, pouvoir faire comme plein de gens là, ce matin, genre, ouais, moi, je le savais d'avance et tout ça, mais bon, moi, mes pronos, ils sont enregistrés, donc j'ai pas le choix. Et après, moi, je suis bien, parce qu'on a beau dire les malédictions, les trucs comme ça, mais avec la victoire des 49ers hier, j'ai repris 2 points à mon camarade Grégory Richard, et je reviens à égalité en tête des pronostics avec lui. Voilà, je dis ça, je dis rien quand même, hein. Donc il reste. Alors non, Gus, j'ai pas débouché le champagne parce que il reste 2 semaines. Donc j'ai suffisamment perdu dans ma carrière de pronostiqueur pour ne pas m'emballer. Mais je suis content. J'ai un petit sourire. Je me dis, il restera après 3 matchs à pronostiquer parce que donc sur les 2 de ce soir, on a les mêmes avec Greg, donc ça peut pas bouger. Mais donc après, on sera à égalité avec 3 matchs à jouer, 2 points par match. Il va falloir jouer serré, mais j'ai un petit espoir. Je pense que sur une des finales de conférence, je vais essayer de jouer un truc. Et puis après, sur le Super Bowl, on va voir comment ça se passe. le vainqueur choisit le gage. Non, je ne sais plus comment on fait. La plus grosse déception des playoffs. Question de l'EA. Bonne question. Les Ravens, hein, forcément, par rapport à leur saison régulière. Quand même, ça pique un peu, hein. Donc, je le disais, le thème de la semaine, on va parler des défenseurs de l'année parce qu'il est déjà 20h35, donc on va quand même pas traîner. Donc, les équipes All-Pro ont été annoncées, les attaquants et les défenseurs. Oui, c'est vrai que Raoul doit faire encore un gage de l'année dernière ou de l'année d'avant. Je sais pas, il faudrait qu'on lui trouve un truc à faire à Miami du coup. Donc, je le disais, les équipes All-Pro ont été annoncées. J'avais envie de revenir un petit peu dessus. Alors, je sais pas si c'est très. On va voir comment on s'en sort. On va prendre la première équipe All-Pro, la deuxième équipe All-Pro. Moi, je voulais juste citer des joueurs qui, à mon sens, auraient pu y figurer. Alors, je dis pas forcément obligatoirement y figurer parce que ça veut dire qu'ils font retirer un des autres et que ceux qui sont là sont plutôt méritants. Mais il y avait quand même quelques petites mentions qui s'imposaient, à mon sens. Je vous rappelle les joueurs de la première équipe All-Pro. En défense, on parle que de la défense pour cette semaine. Chandler Jones, TJ Watt pour les edge rushers. Aaron Donald, Cam Hayward pour les linemen intérieurs. Linebacker, Bobby Wagner, DeMario Davis, Eric Kendricks. Cornerback, Stephon Gilmore, Tre'Davious White, Marcus Peters et Marlon Humphrey, et les safety, Jamal Adams, Minka Fitzpatrick et Tyrann Mathieu. Chez la deuxième équipe All-Pro, Shaq Barrett, Cameron Jordan pour les rushers, Grady Jarrett, DeForest Buckner pour les linemen intérieurs, Luke Kuechly, Darius Leonard et TJ Watt pour les linebackers. Alors voilà, déjà là on a un des premiers problèmes. TJ Watt, il a été voté comme linebacker dans une équipe et comme edge rusher dans l'autre. Faudrait se mettre d'accord. Cornerback, Richard Sherman et Marcus Peters. Et safety, Justin Simmons et Tyrann Mathieu. Et oui, Tyrann Mathieu, il y était comme defensive back supplémentaire dans la première et se retrouve safety dans la deuxième. C'est n'importe quoi. Donc, musculation torse nu à Miami. Raoul doit s'habiller en policier à Miami. Je vois des idées de gage. Il va exporter ses talents à South Beach. Ben oui, pour le Super Bowl. Donc, je disais. Ah, c'est JJ, j'ai mal lu. Oui, du coup, je suis bête. J'ai fait une erreur quelque part, il y a JJ quelque part. Non, je crois pas. Non, j'ai du TJ partout, moi. Bon. A priori, on avait pris le communiqué officiel. Donc, alors, quelques remarques. Évidemment, ceux-là sont discutables. Moi, encore une fois, je pense que, voilà, Quentin, par exemple, le dit, pas un joueur de la défense des Packers. Ah oui, d'accord. Donc JJ Watt n'y est pas. Bon, il a moins joué, il a été blessé, ça se défend. Encore une fois, pas un joueur de la défense des Packers, dit Quentin. Je pense en effet que Za'Darius Smith, 55 plaquages, 13 sacs et demi, 18 plaquages et demi pour perte. Il y avait éventuellement une place, notamment pour remplacer un des 25 doublons qui sont là. Donc ça aurait été pas mal. Voilà, hype Jamal Adams, jamais compris. Clément, c'est un sacré joueur quand même, Jamal Adams. Hein. S'il n'est pas là, la défense des Jets, elle est beaucoup moins bonne. Faut quand même l'avouer. Blake Martinez aussi, au niveau en termes de plaquage, ça aurait pu. Bon, moi, je mets Za'Darius Smith pour... parce que Za'Darius Smith, quand même, arrive cet été, ce printemps dernier, et apporte une dimension supplémentaire à cette défense des Packers, clairement. Autre mention, alors il y en a un moi que j'aurais bien monté de la deuxième à la première, c'est le seul où j'ai fait ça, sinon les autres ils sont vraiment extérieurs, mais Justin Simmons, il est très très peu connu parce que en fait il est dans une équipe de Denver qui est un peu en plein marasme cette année, ou en tout cas une bonne partie de l'année, mais c'est le safety numéro 1 de Pro Football Focus sur les stats annuelles. Il est à 93 plaquages, 4 interceptions, 15 passes défendues. Je pense que Justin Simmons aurait pu honnêtement être dans la première équipe plutôt que dans la deuxième. Ça ne m'aurait pas du tout choqué. Harrison Smith en effet n'est pas dans les safety de cette année, ce qui peut se défendre, hein. Encore une fois, n'oubliez pas que si vous voulez en mettre un, il faut en virer un. Je trouve pas ça honteux. Harrison Smith fait pas sa meilleure saison. Je trouve pas ça honteux qu'il soit derrière Jamal Adams, Minkah Fitzpatrick, Justin Simmons, etc. Mathieu. Je pense pas que ce soit. Je pense pas que ce soit le plus grave. Donc Justin Simmons, je l'ai dit. On a dit Za'Darius Smith. Nick Bosa aurait pu quand même. Alors c'est même pas le meilleur sacker chez les rookies. Hein. Il faut rappeler quand même que c'est Max Crosby des Raiders. Mais Nick Bosa pour l'impact qu'il a. Il a 9 sacs, il en a par exemple. Alors, il joue pas à la même position totalement que DeForest Buckner, mais il a 2 sacs de plus que DeForest, 1 sac et demi de plus que DeForest Buckner. Bon, moi je pense que Nick Bosa, vu l'impact qu'il a eu, il y a très peu de rookies dans les All Pro. Je pense que ça aurait pu quand même discuter. Pour les linemen intérieurs, c'est pareil. Moi j'en ai un, alors c'est un peu un chouchou. Pourquoi pas à la place de DeForest Buckner, je sais pas. Bon, Grady Jarrett, ça bouge pas. Aaron Donald, ça bouge pas. Cam Hayward, ça se défend aussi, il n'y a pas de souci. Mais à l'intérieur, j'aime beaucoup ce que fait Jurrell Casey. On l'a vu encore avec Tennessee sur le match qui a eu lieu hier. Jurrell Casey avec 5 sacs en venant du milieu de la ligne. Ça aurait pu quand même pas mal marcher. Romain dit Nick Bosa est bien entouré, ça aide pour un rookie, mais... On est d'accord, mais ces mecs-là étaient déjà là l'an dernier et ça marchait pas aussi bien. Donc Bosa les aide aussi beaucoup. Je pense que les deux, voilà, les deux marchent. Bon, voilà, c'est toujours le problème hein, d'évaluer des individualités dans un sport aussi collectif. Tarsvelder le dit, oui, Miles Garrett se fait défoncer parce qu'il a balancé son casque sur quelqu'un d'autre. Et d'autres ont une amende, mais c'est vrai que c'est un très bon joueur. Barrett en mention. Alors attendez, de quel Barrett on en... Shaq Barrett, il y est, hein, il est en edge rusher, il est dans la deuxième équipe All Pro. Donc on a dit Simmons, Bosa, Casey, Za'Darius Smith, on a dit, j'en avais deux autres chez Defensive Back. Il y en a un C'est un peu dur parce qu'en fait, il n'a pas fait une bonne saison l'an dernier. Et du coup, son retour en forme passe un peu inaperçu. C'est Marshon Lattimore qui a été ciblé 88 fois cette année. Il a autorisé 44 réceptions. Donc, ça fait pile poil 50% autorisé. Pour vous situer, un Stephon Gilmore, c'est 47 réceptions autorisées sur 96 fois ciblées. Donc, Gilmore est un tout petit peu plus imperméable ou en tout cas un peu plus dur à prendre. Mais voilà, je trouve que c'est un peu dur. Marshon Lattimore aurait pu être dans les cornerbacks. À mon sens, il n'a pas à rougir face à Richard Sherman, même si Richard Sherman est très bon. Hein. Il n'a pas, ouais, il n'a pas à rougir face à Marlon Humphrey. Gilmore est très Tre'Davious White, c'est le très très haut du panier. Mais voilà, encore une fois, hein, voilà, Sherman, on a peur de lui. Je dis pas, voilà. C'est des suggestions de mecs qui auraient pu y être. C'est pas du 100%, je vous dis pas, voilà, ce mec-là. Voilà. Mais Marshon Lattimore, à mon sens, avait une bille à jouer face à certains. Il est en tout cas très bien revenu après une saison difficile. Et les blessures de l'an dernier avaient clairement joué sur son niveau. Et puis, parmi les safeties, je pense que, alors le pauvre il a pris cher hier, mais Earl Thomas finit quand même la saison avec 49 plaquages, 2 interceptions, 2 sacks et 44% de réception autorisée. Je pense que Earl Thomas a pas à rougir face. Alors Minkah Fitzpatrick fait des super stats, c'est très visible après un transfert, etc. Mais Earl Thomas a une belle influence sur cette défense de Baltimore. C'est sa première année là-bas. Je pense qu'honnêtement il a vraiment pas à rougir. Ça reste un safety très très haut niveau. Je suis pas sûr que je prenne Tyrann Mathieu plutôt que lui là tout de suite quoi. Donc encore une fois voilà, je suis pas persuadé que Earl Thomas ça aurait été scandaleux à ce moment-là. Et oui après c'est pas facile de plaquer Derrick Henry clairement clairement clairement. Mais voilà il a pris cher sur ce match. Mais moi ça me dérange pas qu'il ait dit des trucs d'avant match. C'est-à-dire que sinon, on va se plaindre que c'est trop aseptisé. Alors, il faudrait savoir. Mais donc voilà, il a dit un truc. Il a dit oui, nous, on va pas hésiter à lui rentrer dedans, contrairement aux Patriots, etc. Ça lui retombe un peu dessus. Il y a que les gens qui disent rien. Il y a que les gens qui font rien, qui se plantent pas, quoi. Donc voilà, moi, j'ai du mal à lui reprocher. Franchement, moi je prends un exemple, c'est pour ça que ça me fait un peu marrer, mais quand je vois des gens qui nous tombent dessus, ah, t'as pronostiqué ça, ah, vous avez dit que telle équipe elle était moins forte, ben oui, forcément, je veux dire, on est à l'antenne 3 fois par semaine, il faut bien qu'on se mouille, il faut bien qu'on dise des trucs. Donc le seul moyen pour qu'on dise jamais de bêtises, ce serait qu'on fasse rien. Donc évidemment, c'est un sport, je suis bien content de me tromper des fois, vous vous rendez compte à quel point ce serait ennuyeux si tous les jeudis on vous disait exactement ce qui va se passer le week-end? Ce serait inintéressant. Donc voilà, moi je vous dis ça parce que il y a des fois où ça semblait un peu agressif. Ouais, vous avez sous-estimé un tel, ouais, vous avez dit qu'un tel était. Mais on n'a pas les scripts, c'est impossible de savoir. Donc moi je veux bien, mais c'est impossible. Et donc soyez zen, on n'en veut pas aux équipes quand on essaye de prédire, en fait, on fait ce qu'on peut. Voilà donc pour les potentiels oubliés. Sauf pour les, voilà pour les potentiels oubliés. Oui, le cœur des fans. Après, ça fait partie du jeu, on l'a déjà dit. Donc, on va refaire une petite question. Bah oui, on serait riche. On serait riche. Allez, les questions, on va repasser aux questions et je cherche les affiches. Bon, alors, pour donner sur YouTube, question de John, il y a un petit logo. Alors après, ça dépend si vous êtes sur mobile ou, parce que moi, je suis sur un ordi, c'est plus simple aussi, peut-être. Il y a un petit dollar en dessous du truc, ajouter un message dans le chat. Voilà. Ça marche comme ça. Sinon, je vous remets le lien Tipeee, hein. Attendez, bougez pas. Si vous préférez Tipeee, regardez, hop. Hop, voilà. En plus, parce que Tipeee, c'est une plateforme française, donc ils doivent payer leurs impôts en France, alors que si ça passe par Google, qui prend sa gratte et qui ne paye pas ses impôts. Mais ça marche aussi, hein, vous inquiétez pas. Donc, je le disais, on va aller des 46, on va parler un petit peu des matchs quand même. Il serait temps. On commence par Houston, par Kansas City, Houston. C'est à Kansas City d'abord. Alors, du coup, c'est qui le défensif player de l'année? On n'a pas fait les trophées. Je pense qu'on les fera dans le fauteuil d'avant Super Bowl, tiens, les trophées de l'année, parce qu'ils seront tombés la veille. Donc, on fera les nôtres avec Raphaël, tiens, justement. Donc, je disais quoi? Je prédis que l'équipe qui marquera le plus de points au Super Bowl sera championne. Cote de 1, dit le brûleur de loups. Donc, le premier match, Kansas City-Houston. Ah, je vais me mouiller, je vais dire que Kansas City est favori, comme ça tous les supporters de Houston demain diront « Ah, vous nous avez sous-estimés, ah là là, comment vous n'avez pas cru en Bill O'Brien, ce génie offensif qui a tellement de variété dans ses appels de jeu ?» Le fait est qu'il y a Patrick Mahomes en face. Attention par contre, absence très importante de Chris Jones et absence sur la ligne défensive des Chiefs. Ça a été confirmé là, il y a une quarantaine de minutes, une petite heure, quand ils confirment les inactifs. Donc ça, ça va être quand même très, très important. Important pour la défense en termes de pression, parce qu'il met la pression puissante de la ligne Chris Jones, et c'est important contre un quarterback comme Deshaun Watson, et en plus contre la course. Donc vraiment un des tout meilleurs défenseurs de Kansas City qui sera absent, c'est important sur ce genre de match. Il va faire très froid, alors j'ai vu l'arrivée des équipes, apparemment il fait très très froid. De toute façon il fait très froid dans les deux matchs ce soir, avec des risques de neige partout. Enfin, c'est à Green Bay, c'est à Kansas City, il caille. Voilà, donc Kansas City est favori. S'il faut parier, je parie sur Kansas City parce que Patrick Mahomes, mais pas que Patrick Mahomes, Tyreek Hill, Travis Kelce, Mecole Hardman et Damien Williams qui revenaient bien en plus sur les derniers matchs. Donc ça, c'est surtout pour ça que je parie là-dessus. L'attaque de Houston est quand même très peu inspirée en général au niveau des appels de jeu. S'il n'y a pas des exploits individuels de Deshaun Watson et de DeAndre Hopkins, ce qui est possible, et de J.J. Watt, ce qui est possible, c'est là-dessus qu'ils ont vécu lors du dernier match, mais ce sera très très dur. La cote des Texans est à 4,75 sur Unibet, 1,19 pour les Chiefs. Là, pour le coup, j'irais quand même plutôt avec les Chiefs, donc on va dire 1,19. Là, ce serait un peu osé de mettre la cote à 4,75. Le deuxième match, donc c'est minuit 40, encore une fois, malheureusement pour nous Français qui bossons demain, en tout cas pour vous Français qui bossez demain, moi je vais bosser dans la nuit et me coucher après. Les Packers donc reçoivent les Seahawks. C'est un match qui... C'est deux équipes qui sont déjà jouées en plus dans les playoffs il y a quelques années, avec les mêmes quarterbacks, avec... Pete Carroll d'un côté, mais pas Matt LaFleur de l'autre. On l'a dit et redit, les Packers sont une des inconnues un peu de ces playoffs. Les Seahawks, eux, ont quand même des trous dans l'effectif et jouent quand même pareil avec un peu de manque d'imagination en attaque. Enfin, ils vivent que sur des big plays, que sur des grosses actions. Donc ça va être intéressant à voir là-dessus, mais ils ont quand même plus beaucoup de jeux au sol. La ligne peut avoir du mal. On l'a dit, Zadarius Smith, etc. Et les deux Smith peuvent faire très mal. Donc Green Bay, pour moi, à l'avantage dans ce match, dans cette opposition, en plus de jouer à domicile, leur cote est à 1,48, ce qui, à mon sens, se joue pas mal. C'est plutôt une bonne cote pour une équipe qui, à mon sens, est favorite. Donc, je vais dire les Packers à 1,48 chez Unibet. Mais si vous voulez faire un combiné un peu osé, du coup, vous pouvez tenter les Seahawks à 2,65. Ça reste une équipe de playoff coachée par Pete Carroll, qui a de l'expérience des playoffs, alors que Matt LaFleur n'en a pas. Ça peut totalement se faire. Donc je vais vous dire, allez, les Seahawks hop là, je ne sais plus écrire. Seahawks, ça s'écrit comme ça, c'est mieux. À 2,65. Les Seahawks à 2,65. On va se mettre un petit marqueur de touchdown dans l'autre match, tiens, allez. Ou alors on va mettre les Chiefs, mais avec un écart, tiens. On va essayer de pas être trop dur. Allez, on va mettre. Les Chiefs gagnent de 8 ou plus. Ça nous fait du 1,57. Ça va pimenter un peu ça. Et puis un marqueur de touchdown. On va prendre le premier match, hein, celui où il y aura le plus de gens qui vont regarder. Ce sera quand même plus simple. Il est où ? Il est là, Tyreek Hill. Il y a LeSean McCoy à 2,85. Carlos Hyde à 2,33. Les coureurs n'ont pas la cote, hein. Si, Damien Williams, c'est un 78. Non, mais il faut aller sur la valeur sûre, là, pour moi. On va aller sur Tyreek Hill à 1,75 pour les cotes de... non, mais ouais, alors TD... Oui, le touchdown de Lynch, c'est pas une mauvaise idée, au sens où... le touchdown de Lynch dans le deuxième match, c'est pas une mauvaise idée, parce qu'il l'utilise sur les gains courts, comme ça, et ça a marché la semaine dernière. Donc qui marquera un touchdown, Marshawn Lynch est à 2,35. Donc on peut rajouter ça si vous voulez vous faire plaisir. Hop là. Il est où ? Il est à 2,35. 2,35 pour Beast Mode. Voilà pour les meilleurs cotes. Unibet, évidemment, jouer avec raison. Il faut raison garder, bien sûr. Jouer. Comment on dit ? Je ne sais plus. Enfin bref. Soyez raisonnable. Voilà, je cherchais le mot. Soyez raisonnable. Et les pronos, c'est les cotes et les pronos, c'est chez Unibet. Donc 2,35 pour Beast Mode, 1,75 pour Tyreek Hill, 1,57 pour les Chiefs et 2,65 pour les Seahawks. Il y a Quentin qui est modération. Merci, Dayan. Je cherchais le mot. Andy Reid pas au Super Bowl, 1-0-1, dit Quentin. Alors, on en a pareil, c'est une discussion qu'on a eue pas mal dans la rédaction cet après-midi, mais on se disait tous, c'est un peu l'année ou jamais pour Andy Reid, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même une des rares années dans la vie d'Andy Reid où il n'y a pas Tom Brady, il n'y a pas Peyton Manning, il n'y a pas Brett Favre quand il était en NFC. Un parcours. Encore une fois, ça va être des matchs difficiles et il faut garder beaucoup de respect pour ces équipes, notamment les Titans si jamais ils devaient jouer les Titans, les Texans ce soir, l'équipe qui serait au Super Bowl s'ils allaient au Super Bowl, etc. Mais c'est quand même probablement rare de dire qu'ils pourraient aller jusqu'au bout en jouant Texans de Bill O'Brien, les Titans menés par Ryan Tannehill qui est en état de grâce, hein, attention, mais voilà, c'est pas du tout l'adversaire qu'ils attendaient, et au Super Bowl, soit une équipe de Seattle qui vit sur le big play et qui a des trous, soit des 49ers avec un Garoppolo qui pourrait prendre des risques et qui n'ont pas l'expérience du haut niveau, soit des Packers, pareil, qui ont eu une attaque qui a été un peu sur courant alternatif. Mais de toute façon, il y aura forcément des gros matchs, hein, on ne gagne pas un titre sans rien, mais voilà, le tableau, ils sont à peu près dégagés, c'est-à-dire que quelqu'un leur a dégagé les Patriots, quelqu'un leur a dégagé les Ravens, ce quelqu'un, il va être costaud à jouer, mais voilà. Après, ouais, mais je pense que Andy Reid, une victoire d'Andy Reid serait quand même une belle histoire. Je pense que c'est quand même un personnage qui dégage quand même quelque chose de sympathique et qui est là depuis suffisamment longtemps pour que beaucoup de gens aient un peu d'histoire avec lui. Donc ce serait quand même plutôt pas mal. Je vois quelqu'un parler d'Eric Henry pour le joueur offensif de l'année, Stanislas. Alors attention, que ce soit pour le joueur offensif, le défenseur, etc. Les votes, en théorie, ont même déjà été rendus par les journalistes. C'est sur la saison régulière et exclusivement la saison régulière. Les playoffs, en théorie, ne peuvent pas leur faire changer d'avis. Les votes sont bouclés. Donc voilà, c'est même raison qui fait que Lamar Jackson, par exemple, on ne peut pas remettre en cause son titre de MVP parce qu'il a fait un mauvais match de playoffs. Tous les titres NFL individuels portent sur la saison régulière et uniquement la saison régulière. Et si vous lisez des stats, quand on cite les stats en carrière d'un joueur, ça ne prend en compte que les matchs de saison régulière. Il faut ajouter les matchs de playoff en plus en cherchant. Mais vraiment, c'est la saison régulière, la base de tout. JR, je vais répondre très honnêtement. Donc, si je comprends qu'Essi est favori au Super Bowl pour moi, oui, il l'était. Alors, je ne vais pas me défiler. Il l'était pour moi quand j'ai rendu mon tableau sur le site. On a mis tous nos tableaux de l'équipe il y a quelques jours. Quand j'ai mis mon tableau, il l'était déjà. Je les avais mis au bout. Alors, à l'époque, je les avais mis contre les Saints et avec victoire des Chiefs. Donc, si là, ils sont. Alors, ils n'ont pas encore joué. Hein, ça se trouve, ils vont me faire déchanter dès ce soir. Mais ils étaient favoris pour moi il y a une semaine. Donc, ils sont toujours favoris pour moi. Encore une fois, le tableau se dégage. D'une manière très relative, mais il se dégage. Pour moi, c'est San Francisco les favoris, dit Quentin. Après, voilà, c'est très ouvert. Hein. Franchement, on va avoir là des finales de conf et un Super Bowl qui s'annonce quand même plutôt sympa. Ça bouge. Les Titans, c'est comme les Anglais au rugby, ils dégagent de gros, mais perdent épuisés contre le troisième, dit Tars Velder. Après, voilà, peut y avoir ça aussi. Enfin, c'est très très compliqué hein, de gagner 4 matchs de suite pour gagner un Super Bowl, c'est vraiment très dur. Les Chiefs ont perdu leurs 2 matchs face aux Packers cette saison, dit Flo 07. Ils ont pu les jouer qu'une fois par contre, donc je ne sais pas. Quelle heure les finales de conférence, Gus? Alors la semaine prochaine, tiens, ça me permet de vous le dire, la semaine prochaine le fauteuil c'est même heure, c'est 20h, 20h-21h, la première finale de conférence, si je ne dis pas de bêtises, ce sera l'AFC à 21h et la finale NFC à minuit 40. Hop là. Oui. Alors, je vous dis pas de bêtises. On a fait les cotes, on a fait les pronos. Alors, je vais faire le front-ton maintenant. Après, il nous restera 4 minutes de Raconte ma life. Hop là, pardon, Christian McCaffrey qui me tombe dessus. Hop. Tiens, en parlant de Raconte ma life, merci beaucoup à la team Clou Girofle la semaine dernière pour le tuyau. C'est vrai que ça soulage. Alors, hop. Est-ce que j'ai déjà connu des saisons où il n'y a pas de favori qui se dégage? Moi, le premier qui me vient à l'esprit, c'est quand même le Super Bowl 2013 Ravens 49ers. Ça devait pas être le plus attendu et ça doit être un des rares sur les 10 dernières années où il n'y a ni Brady ni Manning dans le coin. Donc, clairement. Alors, Je suis désolé, j'ai pas retenu le nom. Il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a envoyé un message cette semaine en me relayant un tweet de Didier Porte qui disait que la fourme de Montbrisson était terriblement sous-cotée par rapport à la fourme d'Ambert. Eh bien, écoutez, coup de bol, j'ai un fromager qui avait de la fourme de Montbrisson que je vous fais découvrir juste là. Et alors, je viens de la déballer devant vous, donc je ne l'ai pas encore goûté. Voilà, regardez ça comme c'est beau. Oh là là, comme c'est beau. La fourme de Montbrisson, qui est une pâte persillée, lait de vache crue. Alors, je ne vais pas mentir, je ne suis pas un grand fan de fourme d'Ambert. En général, quitte à ce qu'il y ait du bleu dans mon fromage, je suis plus roquefort. Allons-y plus costaud. Mais, écoutez, ça m'a l'air pas mal non plus. Ça m'a l'air un peu plus délicat. Ça conseillait sur un peu fondu au four sur une tranche de pain de campagne. Donc, on va tester ça. À mon grand désarroi, je n'ai pas de pain aujourd'hui, mais je vais essayer quand même. Montbrisson, c'est ton patelin, dit Hugo. Et bah écoute, ça m'a l'air plutôt sympa, en tout cas. Je mange tout ça dans la nuit. Non, alors avec l'âge, je me suis un peu quand même calmé. C'est-à-dire qu'à une époque, je mangeais des glaces pendant les matchs ou des trucs comme ça. Et non, maintenant, je mange quasiment plus en fait pendant la nuit, pour être honnête. Mais j'aime bien faire des bons petits déj après les matchs. Genre ce matin, c'était des œufs sur le plat. Enfin, 4 œufs sur le plat. La semaine dernière, pain perdu ou des choses comme ça. Mais c'est voilà, je mange moins de saloperies qu'avant, clairement. Et comment vont mes dents, donc demande Gus. C'est ce que je disais là. Donc ça a bien marché le clou de girofle un petit peu. Alors j'ai failli m'empoisonner avec l'huile essentielle là. Mais mâcher un clou de girofle directement, c'était pas mal. Et donc je vais me faire charcuter par un dentiste mardi. Ça va être trop bien. Si vous m'entendez bégayer dans l'émission de jeudi, c'est que ça va pas. Ça se prononce pas Brison, dit Tifosonelamino. C'est possible. T'as pas de pain, c'est dur ça avec du fromage. Bah ouais, non, mais c'est ça, je suis un peu en galère. Avec la confiture fruits rouges, ça passe bien aussi, dit le brûleur de housse, c'est pas mal. Tu peux donc reboire du vin maintenant que ta dent va mieux. Ça va aller. Le goût des pâtes de nuit, je ne te jugerai jamais sur la bouffe de nuit. Alors Lucas, il mange des pâtes la nuit. Ah ouais. Ouais. Bertrand, le pain perdu ou 4 œufs au plat niveau diététique, c'est pas le top. Ouais, mais ça va, je peux me permettre. Je compense, je fais du sport. le prochain foot avec une tête de hamster, peut-être. Ouais, j'ai un peu peur, hein, franchement, mais bon. Donc on dit Montbrison, excusez-moi. Mon repas typique Super Bowl, Stanislas. Je sais pas. Bah, l'année dernière, j'avais acheté plein de fromages pour le fauteuil, donc j'avais bouffé plein de fromages. Ouais, non, j'ai pas de repas particulier, en fait. Je vous dis, j'essaie d'éliminer le gras, parce qu'en fait, comme je bosse toute la nuit et que je dois tenir après pour le résumé et tout, j'essaie de pas manger des trucs fat ou trop sucrés ou quoi, parce qu'en fait, ça fait comme ça au niveau de l'énergie après. Je suis désolé, hein, c'est plus très fun, j'ai 34 ans maintenant, et du coup, je suis végétarien depuis 4 ans... C'est pas très fun du coup, enfin c'est fun, je mange des trucs fun de temps en temps, mais pendant la nuit non, j'essaie de devenir raisonnable. Flo07, non j'ai pas vu ton mail, attends, faudra que je regarde tout à l'heure. Ouais non mais c'est ça, voilà, les trucs sucrés j'ai arrêté, et 34 ans et pas toutes mes dents clairement. Si demain, mais ouais, le cholestérol j'en ai un peu, j'ai fait des analyses de sang au début de l'année, c'était rigolo. Écoutez, il est 21h. Alors cette année, cette semaine, on peut faire un tout petit peu de rap parce que je crois que ça commence à 21h05. Donc si vous voulez un peu plus de Raconte ma life, alors je vois pizza, alors pizza valeur sûre, il a raison, il est génou. Et puis ça marche quand on est végétarien aussi, hein, ça m'empêche pas de me faire des bêtes de pizza. Quentin qui dit hamburger végétarien, ça marche aussi. Voilà, mais oui, je pense qu'on est sur les bases. Est-ce que c'est du bon cholestérol? Alors ça, c'est la bonne question. Alors je suis pas ravi, Flo07, d'avoir du cholestérol, mais non, je sais pas. On m'a dit que j'étais genre juste à la limite haute et que genre il fallait pas trop déconner quoi. Mais bon, quand même, hein. Apparemment, je mange des trucs. C'est pour ça, moi, ça me fait marrer quand on dit, oh, t'es végétarien, tu manges que des trucs sains et chiants, etc. Non, je vous jure, on peut avoir plein de cholestérol, il suffit de bouffer des œufs et du fromage tout le temps. Donc voilà. Monter dans le train de Hype Wilson tant qu'il est encore temps. Dispositif draft, Bertrand. Alors là, on n'en est pas du tout là, je suis désolé. Mais a priori, comme l'an dernier, je pense. Bon, on va voir ça, mais a priori, comme on arrive. Ma chérie veut me faire manger des chenilles. C'est bon pour un super bowl, dit Tarsvelder. Ah, vache. Ah, je sais pas. Du coup, je sais pas si c'est végétarien, les chenilles. En plus, je pense pas que ce soit végétarien. Et même si j'avais pas été végétarien, j'en aurais pas bouffé. Hein. Ah, bon, bah, c'est bon. Alors, les œufs, apparemment, c'est safe, me dit Foran Arena. Là, si vous êtes en podcast, vous kiffez. Hein, la fin d'émission, elle est en roue libre. Qui est le plus gros mangeur et le plus gros buveur de TDA? Ouais, mais ça, c'est des trucs perso, je peux pas le dire sans leur demander. Donc, je suis végé depuis 3 ans. Je fais 1,90 m et 110 kilos, dit Martial. Mais oui, ça ne veut rien dire. On peut être végétarien et être très bien. Très en forme, j'ai jamais couru aussi vite et aussi loin. Donc voilà. Et après, des fois, il faut pas. Moi, je prends un petit cachet pour les vitamines B12 et tout ça par jour, et puis hop, ça roule. Les œufs de chenille, non merci. Sébastien Paulomy, une petite recette en live. Ah, pourquoi ça? Non? Est-ce que j'ai vu la rumeur comme quoi les Jacks s'intéressent à Tua? Ouais, parce qu'il faut parler un peu de football américain. Non, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, mais pourquoi pas? Non. Non, mais si, non, je comprends pas trop en fait. Yannick, végétarien, je pourrais jamais dans la région où j'habite, c'est pas possible. Oh, ça dépend, tu sais. Ça dépend. C'est possible partout maintenant. Hein. D'ailleurs, à ce sujet-là, ça commence à prendre, n'empêche, aux States aussi, parce que si vous voyez pendant les matchs, si vous regardez sur les chaînes US ou sur le Game Pass, il y a des pubs pour une chaîne de burgers ils appellent ça le Impossible Burger, et donc ils leur font goûter, ils font genre, oh, c'est trop de la viande, wow, c'est trop fat et tout, et en fait, c'est pas de la viande, et ils font, oh là là, je me suis fait avoir. Dégustation fromage en live pour bientôt. Mais alors, je déteste manger à l'antenne. Ça, je crois que je l'ai déjà dit, mais je déteste manger à l'antenne parce que ça fait saliver et tout, et je trouve ça horrible. Donc, je vous l'épargne en fait à chaque fois. Oui, il faut que je regarde The Game Changer sur Netflix, dit Martial en effet. Qu'est-ce que le pop-up? Je fais du vélo, moi aussi je prends des petits trucs. Ah, alors Bertrand, il prend quoi pour le vélo? Sébastien fait une omelette pour les nuits d'Alain, Fornarina. Ah ouais, Ebrouillé. Je suis team Ebrouillé sinon. Tu fais une session ASMR en mangeant le fromage. Ah, c'est dégueulasse. Y a-t-il une raison pour le fait de devenir végétarien? Bah ouais, moi je suis contre les abattoirs et la souffrance animale. C'était le petit instant propagande. Ça parle de régime. Ah oui, il y a même de l'arnica et des vitamines, Bertrand. Bah voilà. Bah ouais, moi j'ai un petit complément vitamine aussi. Vous êtes sûr que c'est pas moi qui ai gagné le maillot de Marc Caffrey? Je suis désolé, si, si. Vous avez vu, on fait 5 minutes de rab en mode freestyle. Hein. On fait 5 minutes de rab en freestyle. Hop, hop, hop. Bon, bah voilà, on a parlé bouffe. Ah oui, les pizzas. Ah ouais, les pizzas. Y a des... Par contre, alors, végétarien ou pas, hein, il y a des pubs qui foutent quand même la gerbe à 3h du matin sur les chaînes US. Moi, c'est horrible, quoi. Des crêpes pendant le super. Ah, c'est pas mal, les crêpes. Et même crêpes salées. Oh, la Bretagne, vous êtes les meilleurs pour ça, au niveau de la bouffe. Il y a Bob à la télé. Il a l'air plus gros que moi. Ah oui, Bill O'Brien, ouais. Oui, après, il y a des. Grâce à des gens comme Alain, Winston va vivre. Pourquoi? Bon, voilà. Mais après, il y a tellement. Vous avez vu, j'ai mis un petit liseré bleu, blanc, rouge en plus sur l'ordinateur. Il y a tellement de bonnes choses à manger partout dans ce pays que de toute façon, voilà. Pays de Galles indépendant. Exactement. Allez, il est 21h05. Je vais vous laisser parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a Bill O'Brien à la télé. Ça veut dire que le match va commencer. Donc, vous avez, comme tous les ans, la bouffe normande est au-dessus de la Bretagne, dis-nous. Bah, déjà avec la Normandie, le Mont-Saint-Michel, donc en plus. Non mais voilà. Mais donc en tout cas, ça commence. Bon match. Ben voilà. Mister Fact l'a dit. Et c'est ce que je vous dis. Chaque semaine, vous avez mieux à faire que me regarder maintenant, puisque les matchs vont commencer. Et surtout, on ne se quitte pas pour très longtemps parce qu'on enregistre l'émission pas trop tard normalement demain avec Grégory. Donc vous devrez avoir le débrief des matchs 17-18 h. Allez, quelque chose comme ça. Merci beaucoup à tous. On vous souhaite une très bonne soirée de match. Encore plein de surprises, plein de belles actions, plein de trick plays. Tout ça, tout ça. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Je le disais, le débrief demain, le fauteuil la semaine prochaine à 20 h. Ciao, ciao.
Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.